Et on va commencer en parlant de l'Arctique, au centre de toutes les convoitises. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, entame demain une tournée européenne qui commencera en Finlande par une réunion du Conseil de l'Arctique qui rassemble tous les pays riverains du pôle Nord, alors que le réchauffement climatique et la fonte des glaces annoncent des perspectives économiques et commerciales nouvelles. Et nous en parlons avec notre invité en studio, Mika Mered. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut libre d'études des relations internationales qui se trouve à côté de Paris. Pourquoi l'Arctique est devenue une terre de conquête et de rivalité entre grandes puissances depuis quelques années? Je pense notamment à la Russie, aux États-Unis, mais aussi à la Chine.
Alors c'est une terre de conquête depuis longtemps, c'est-à-dire que l'Arctique, ça attire des investisseurs et des exploiteurs, si on pouvait dire ça comme ça, dans le secteur notamment des ressources minérales et le secteur des hydrocarbures depuis déjà plus d'un siècle. On exploite de minerais en Arctique depuis la fin du 19e siècle et puis du pétrole depuis 1922. Donc l'Arctique, c'est quelque chose qui est sur la carte du monde depuis un moment. Et puis ça a été aussi au cœur des enjeux durant la guerre froide. Ce qui change maintenant aujourd'hui, c'est qu'avec le changement climatique, on se retrouve avec un nouvel espace, à exploiter, à viabiliser, avec des ressources très importantes, puisque l'Arctique représenterait à peu près un quart des ressources qui resteraient à découvrir en matière d'hydrocarbures, donc pétrole et gaz sur la planète, mais on peut aussi parler des terres rares, on peut parler d'uranium, on peut parler du nickel, et ainsi de suite. Et puis évidemment, le développement de routes maritimes intercontinentales, au-delà de tout ça.
Voilà, parce que concrètement, quand la glace fond, et elle fond de plus en plus, particulièrement en été, mais aussi maintenant en hiver, ce sont des voies maritimes qui s'ouvrent et ce sont aussi donc des terres qui vont être exploitables.
Et puis même si la glace ne fond pas autant que certains l'espéraient, eh bien on développe des technologies qui permettent de faire en sorte que cette glace qui reste ne soit finalement plus un problème ou plus un frein, en tout cas, à l'exploitation pour certains secteurs économiques, évidemment, à très forte valeur ajoutée. Hein.
Alors, l'Arctique appartient à qui? Il y a des eaux territoriales, il y a des eaux internationales, et le débat, on est au cœur du débat.
Alors moi je suis prof de géopolitique des zones polaires, Arctique et Antarctique. Souvent, on confond les deux. L'Antarctique, c'est le pôle sud, c'est un continent entouré d'un océan. L'Arctique, c'est le pôle Nord, et c'est un océan qui est entouré de terre. Et donc vous avez 8 pays, vous l'avez cité, hein, 8 pays riverains de la zone. On va aller d'ouest en est, on va passer par d'abord les États-Unis avec l'Alaska, puis le Canada, puis le Groenland qui appartient encore au Danemark, puis l'Islande, puis la Norvège, la Suède, la Finlande et enfin la Russie. Donc ces 8 États ont soit des terres, soit des zones économiques exclusives, donc maritimes, soit les deux pour la plupart, au nord du cercle polaire arctique.
Alors, demain et après-demain, il y a donc cette réunion du Conseil de l'Arctique. Est-ce que cette organisation est en train de changer de nature? À l'origine, dans les années 90, lors de sa création, il s'agissait de promouvoir le développement durable. Mais aujourd'hui, les États-Unis en particulier veulent gommer toute référence au changement climatique. Leur priorité, ils l'ont encore dit il y a quelques jours, c'est la croissance économique. La Russie, elle est aussi sur cette ligne. On se soucie peu de l'environnement et on fait tout pour développer l'économie.
Alors c'est plus complexe que ça et je vais essayer de ne pas vous embêter trop longtemps, mais d'être précis quand même. Vous avez d'un côté un certain nombre d'États qui disent, en effet, le principal enjeu de l'Arctique, c'est aujourd'hui la croissance économique. La croissance économique pour qui? Pour des investisseurs qui viennent du sud de ces États, donc en dehors de la zone arctique, bien qu'ils viennent de pays dits arctiques, mais aussi du développement économique et social et éducatif, etc., pour les populations de l'Arctique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui vivent dans l'Arctique, et il n'y a pas que des peuples autochtones, il y a aussi des populations, on va dire classiques, du Sud, qui ont pu émigrer vers le Nord et qui cherchent de la croissance économique aussi. Mais dans ce cadre-là, vous avez évidemment tout l'enjeu environnemental qui est et qui reste prégnant au Conseil de l'Arctique et ailleurs, et vous avez donc des jeux d'État qui se mettent en place. Donc les États-Unis, par exemple, cherchent à mettre en place un système qui soit axé d'abord sur la croissance économique, mais pour autant, les questions écologiques viennent toujours mordre un petit peu la queue du sujet derrière. Et de l'autre côté, vous avez des États comme la Russie qui vont plein pot en matière d'exploitation, mais qui, aujourd'hui, ont compris, et on l'a vu notamment avec des discours sur l'Arctique de Vladimir Poutine au mois d'avril 2019, des discours qui consistent à dire « les États-Unis ne font pas ce qu'il faut pour faire en sorte que le développement de l'Arctique soit quand même responsable vis-à-vis de l'environnement ». Donc on voit comme ça des jeux de pouvoir et des jeux de discours qui se mettent en place, mais ce qui est certain, et j'arrêterai là, c'est que le Conseil de l'Arctique, organe diplomatique de référence dans la région, est le jeu et le territoire de jeux de pouvoir et de jeux de discours, comme on vient de le dire.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait déboucher et sortir de cette réunion du Conseil de l'Arctique demain et après-demain ?
Alors, demain et après-demain, c'est un sommet ministériel. Ce sommet ministériel du Conseil de l'Arctique, il a lieu tous les 2 ans. Et donc, du coup, chaque 2 ans, vous avez une présidence tournante avec un nouveau pays qui prend la présidence du Conseil de l'Arctique. Et chaque pays essaye de faire passer un certain nombre d'intérêts qui lui sont propres. Ces 2 dernières années, c'était la Finlande qui présidait le Conseil de l'Arctique et va passer la main à l'Islande, puis en 2021 à la Russie. Et donc du coup, on voit aujourd'hui que la Finlande a essayé d'utiliser le Conseil de l'Arctique pour avoir une place beaucoup plus importante en matière de politique étrangère. Ils ont essayé par exemple de monter un sommet des chefs d'État et de gouvernement arctiques, sans succès, mais ils ont beaucoup essayé. Il n'y aura pas de grand accord lors de cet événement. Cependant, il y aura quand même beaucoup de progrès qui vont être faits en matière notamment en matière scientifique, en matière environnementale, notamment par exemple sur la lutte contre les contaminants pour les ressources biologiques en Arctique, sur la lutte contre les microplastiques, sur la lutte contre la pollution à base d'hydrocarbures. Donc il y aura quand même un certain nombre de délivrables qui vont être présentés, même s'il n'y aura pas de grand accord comme on a pu le voir parfois en 2011 ou en 2013 par exemple.
Et donc les questions environnementales ne sont pas laissées de côté. On a parlé beaucoup des États-Unis, de la Russie. Il y a aussi la Chine qui s'intéresse beaucoup à l'Arctique. Pourquoi ?
Alors, dans le Conseil de l'Arctique, vous avez les huit États riverains qu'on a évoqués. Vous avez 6 organisations qui représentent des peuples autochtones en Arctique. Et puis, vous avez 39 observateurs. Parmi ces 39 observateurs, vous avez 13 États. Et parmi ces 13 États, vous trouvez la France, mais aussi la Chine, l'Allemagne, Singapour, la Corée du Sud, etc. Et donc, du coup, on voit qu'au-delà de la Chine, c'est surtout la question des 3 plus grandes puissances asiatiques, donc Chine, Japon et Corée du Sud. Ils regardent vers l'Arctique pour des questions de ressources, évidemment, et de ressources diverses, pétrole, gaz, minerais, bois, pêche, etc., mais aussi pour le développement des routes maritimes, et puis aussi pour prendre un pied, quelque part, un biais territorial si possible, en tout cas c'est le cas de la Chine, vers l'espace atlantique, de manière à pouvoir créer un continuum maritime qui permettrait petit à petit, à l'horizon 2030, 2040, 2050, de développer une route de la soie polaire, le passage arctique central, passage du nord-est, comme ils l'appellent, pour pouvoir en créer le commerce mondial d'un point de vue intercontinental entre l'Europe et l'Asie, par le nord aussi bien que par le sud.
Merci beaucoup, Mika Meret, d'être venu nous expliquer les enjeux de l'Arctique à la veille de cette réunion du Conseil de l'Arctique. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut libre d'études des relations internationales.